Olivia Maillefer, vous êtes animatrice et chargée de communication pour Liane Coopération, qui est le réseau d'appui à la solidarité internationale dans la région. Quel est le rôle en fait de cette association en fait ?
Donc nous sommes le réseau régional multi-acteurs de solidarité internationale en Nord-Pas-de-Calais. Donc ça signifie qu'on a pour objectif principal de mettre en réseau tous les acteurs qui font de la solidarité et de la coopération internationale. Donc il y a plusieurs missions pour cela. La première, c'est d'abord une mission d'observatoire. On essaie de relever un petit peu les pratiques, de faire un recensement de ce qui se fait, des projets. Nous avons une base de données qui réunit une grande partie des projets qui sont menés par des acteurs du territoire. Nous coordonnons également l'offre de formation proposée sur le territoire. Et on organise du coup des rencontres entre acteurs sur certaines thématiques plus ou moins liées à l'actualité, comme par exemple les problèmes au Mali. Chaque année, nous organisons un colloque donc sur une thématique phare. Cette année, par exemple, c'est sur l'éducation au développement, donc comment sensibiliser ici au Nord sur les problématiques Nord-Sud. Et on fait de l'accompagnement aux structures, donc soit les collectivités qui souhaitent s'intégrer dans la coopération décentralisée, donc c'est-à-dire la coopération internationale de collectivité à collectivité, soit des porteurs de projets qui souhaitent démarrer des projets de solidarité internationale, donc qui passent par un dispositif que nous animons, qui s'appelle le dispositif régional d'appui aux porteurs de projets de solidarité internationale, donc le DRAP, qui à la base a été mis en place par la région Nord-Pas-de-Calais et que nous animons donc pour accompagner les porteurs de projets.
Quand on parle de coopération Nord-Sud, de solidarité internationale, on pense plutôt humanitaire. En fait, ce n'est pas vraiment le champ d'action de votre réseau. Alors, de quel champ d'action vous concerne ?
Alors, oui, effectivement, il y a une grosse différence. Nous travaillons essentiellement sur les projets de développement, c'est-à-dire le but ce sont des projets qui cherchent à s'inscrire de façon durable sur les territoires, à permettre un développement des populations et des pays où les projets sont démarrés, contrairement à l'humanitaire qui cherche surtout à répondre à des besoins d'urgence suite à des problèmes, des difficultés climatiques ou suite à des guerres ou des choses comme ça. Nous nous inscrivons vraiment dans des choses durables avec une notion de réciprocité et de coopération entre les acteurs du Nord et les acteurs du Sud, ce qui est essentiel pour nous.
Alors quel genre de public vient à votre rencontre ? Des associations, des entreprises, des collectivités, aussi peut-être des gens qui viennent d'églises ou je ne sais pas
Alors justement, notre spécificité, c'est que nous sommes multi-acteurs, donc on ne ferme absolument aucune porte, c'est-à-dire que ça concerne tous les acteurs qui souhaitent mener des projets de coopération internationale, donc les associations, mais aussi et surtout les collectivités, les hôpitaux, les écoles, les centres sociaux, enfin voilà, c'est très très varié, les porteurs de projets individuels que nous essayons aussi d'écouter, d'accompagner au mieux pour que les projets soient construits de façon cohérente et pour que les répercussions aussi des projets qui vont être mis en place soient bien envisagées. Voilà, tout type de porteurs de projets en fait.
Ce réseau, à la base, il est né aussi parce qu'il y avait plein de petits porteurs de projets qui avaient peut-être des projets similaires les uns à côté des autres et qui ne travaillaient pas forcément les uns avec les autres et qui n'avaient pas aussi les outils, parce que des fois, on fait des projets de solidarité internationale et puis on croit bien faire et puis finalement, ça a des conséquences néfastes.
Voilà, il y a un petit peu de ça. Ce n'est pas forcément les petites associations, mais l'idée, c'était aussi de pouvoir mutualiser, échanger sur des problématiques communes, créer des partenariats pour toujours construire des projets qui soient les plus pertinents et les plus efficaces possibles, et puis faire évoluer les pratiques et les réflexions aussi. Donc, ça peut être c'est vraiment de la mise en réseau. Ça peut être d'une collectivité avec une association. Ça peut être sur une thématique précise. Je sais pas, la problématique de l'eau par exemple. Ou alors, ça peut être sur un territoire précis. Les assos qui travaillent ensemble au Cameroun. Le but, c'est vraiment de pouvoir échanger les bonnes pratiques. Vous parliez d'outils tout à l'heure, mais c'est ça aussi, pouvoir construire des outils ensemble qui sont pertinents et qui répondent aux soucis de toutes les structures structure, en fait, qui mène ces projets-là. Voilà, et puis pourquoi pas d'innover un petit peu. On parlait tout à l'heure d'innovation, d'innover pour que les projets soient de plus en plus adaptés et viables économiquement. Aussi, donc quels apports on peut avoir les uns avec les autres, d'où aussi le partenariat avec le mois de l'économie sociale et solidaire, qui est une des réflexions que nous menons en ce moment, à savoir qu'est-ce qui peut faciliter la pérennité des projets que nous menons au Sud, et les valeurs défendues par l'économie sociale et solidaire semblent être une orientation possible.
On va en reparler, hein, si vous voulez bien, de l'économie, du lien entre coopération Nord-Sud et économie sociale et solidaire. Mais encore une question sur le public qui vient à votre rencontre, bénévoles, professionnels, des gens que vous essayez de professionnaliser ?
On a vraiment de tout, c'est-à-dire qu'il y a certains porteurs de projets qui sont essentiellement bénévoles, donc des militants, qui s'y connaissent, qui s'y connaissent pas, qui démarrent des projets ou qui en font depuis longtemps, mais on a aussi, on réunit également beaucoup de salariés, que ce soit des techniciens des collectivités ou des salariés des associations. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de frontières.
Alors sans donner dans l'auto-congratulation, au niveau de la région, est-ce qu'il y a une dynamique importante au niveau de la solidarité internationale ou comment vous voyez ça ?
Alors effectivement, un petit peu le comparatif est assez rigolo avec l'économie sociale et solidaire. C'est qu'en fait, le Nord-Pas-de-Calais fait également partie des trois régions les plus dynamiques dans ce domaine-là. Et on retrouve les trois mêmes régions qui sont la Bretagne, Rhône-Alpes et le Nord-Pas-de-Calais. Donc qui réunit beaucoup d'acteurs qui sont très engagés, que ce soit dans les actions au Sud ou que ce soit dans les projets de sensibilisation que nous mettons en place ici au Nord. Voilà, je sais qu'en termes d'éducation au développement, donc les actions qu'on mène ici pour sensibiliser les gens aux problématiques Nord-Sud, le Nord-Pas-de-Calais représente environ 10% de toutes les actions qui sont mises en place en France. Du coup, c'est quand même assez conséquent vu la taille de la région.
Et qu'est-ce qui explique ça ? C'est que les gens du Nord sont plus solidaires que, je sais pas, les gens des Alpes ou...
je pense qu'il y a plusieurs raisons. L'une des raisons, c'est peut-être qu'effectivement, c'est une région qui a un passé pas forcément évident et donc qui a mis en place beaucoup de projets pour... de solidarité entre les gens pour que chacun puisse s'en sortir. Après, en termes de solidarité internationale, c'est aussi une région qui a été terre d'immigration de beaucoup de peuples, que ce soit la région du Maghreb ou que ce soit des pays de l'Est avec la Pologne, etc. Quand il y a eu des venues de migrants dans le bassin minier. Donc effectivement, il y a un lien avec l'international qui est fort depuis aussi cette période-là.
Alors, on en parlait tout à l'heure, hein, aujourd'hui c'est à la fois c'est une soirée, hein, sur le thème de la coopération Nord-Sud, c'est aussi le lancement du mois de l'économie sociale et solidaire. Alors quel lien vous faites, vous, entre ces deux champs, ces deux secteurs,
Effectivement, ça avait été un petit peu évoqué tout à l'heure. Ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que au final, nous habitons tous une seule et même planète et que les choix que nous allons faire ici vont avoir des répercussions au Sud et inversement. Je pense par exemple au choix sur l'alimentation. Plus on va chercher à gagner de l'argent ou en achetant le moins cher possible, plus cela signifie que les producteurs seront moins bien payés. Il y a énormément de producteurs du Sud qui n'arrivent même pas à vivre en fait de leur travail parce que nous avons des choix de consommation ici qui ne les prennent pas en compte. Donc tout ce qui est volet commerce équitable, tourisme solidaire, etc. cherche justement à contrer ces phénomènes-là. Nous participons au même projet, à la construction d'un même projet de société. L'idée, c'est de reconstruire peut-être une nouvelle forme de mondialisation qui soit respectueuse des uns et des autres. L'idée principale qui est commune en fait aux acteurs de l'économie sociale et solidaire et de solidarité internationale, c'est la notion de développement local durable. C'est-à-dire que ce soit les projets que l'on va mener au Sud ou les projets qui vont être menés ici, le but c'est de s'appuyer sur des ressources locales et surtout répondre à des besoins qui ont été exprimés localement et non pas l'inverse, c'est-à-dire susciter des besoins qui n'existeraient pas.
Avant-dernière question, si vous voulez bien. En tant que, qu'acteur auprès des pays pauvres, des pays du tiers-monde, j'imagine que les associations, votre réseau, est aussi un témoin privilégié des méfaits du capitalisme mondial d'aujourd'hui, de ce qu'on pourrait appeler une contre-révolution libérale. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être finalement un pansement, enfin d'agir comme un pansement sur une plaie béante, alors qu'il faudrait un rééquilibrage complet de l'économie mondiale?
Oui, effectivement, c'est pour ça déjà qu'on différenciait tout à l'heure humanitaire et projet de développement. C'est que le but n'est pas juste de créer un patch, de mettre un patch sur une problématique à un instant donné, mais vraiment de recréer des dynamiques locales et surtout un équilibre. Donc soit par les projets de développement que l'on met en place, mais également par toutes les actions de lobbying ici aussi. Donc les actions de sensibilisation auprès du public, mais aussi de lobbying auprès des politiques, etc. Donc toutes les campagnes que nous pouvons défendre et valoriser ont ce but-là, c'est-à-dire aider à recréer un système qui soit égalitaire, qui soit respectueux de tous au-delà des frontières, durablement. Je précise.
Comment faire comprendre au consommateur qui est déjà en difficulté ici, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, qu'il faut consommer différemment pour le producteur d'ailleurs ou d'ici?
Déjà, leur expliquer aussi que les retombées qu'il peut y avoir au sud, dans les choix de consommation qu'on va faire, mais également les retombées au nord. C'est-à-dire que, comme je vous le disais tout à l'heure, tout est un cercle vicieux ou vertueux, tout dépend dans quel sens vous le prenez. Et effectivement, il y aura forcément à un moment ou à un autre des retombées ici au nord. Et en fait, ce sont des choix que l'on fait. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense que vous pensiez surtout économiquement parlant, c'est pas toujours évident de faire ces choix-là par rapport à l'alimentation. On a déjà du mal ici, pour certains, à boucler les fins de mois. On sait que tout ce qui est commerce équitable, agriculture biologique, etc., ça a un coût. Après, ce sont des choix de vie aussi par rapport à ce qu'on souhaite, à la société qu'on souhaite créer, développer et promouvoir. Voilà, nous sommes habitants d'une seule et même planète et de toute façon, les retombées qu'il y aura au sud, nous les aurons à un moment ou à un autre ici. Et nous les avons déjà, d'ailleurs, nous les voyons maintenant, les conséquences. Donc, réfléchir de façon un petit peu plus globale, quitte à supprimer peut-être certaines choses de nos vies qui sont peut-être moins pertinentes ou un peu plus futiles. Voilà, ça reste des choix de consommation et des choix de société qui fait qu'on est aujourd'hui acteur de la société qu'on veut créer.
On va tout de suite passer à l'interview de Julie Lebigot. Julie Lebigot, salut. Donc vous êtes coordinatrice associative de cette association qui s'appelle Avertem. Alors je prends mon souffle pour dire association de valorisation de l'ethnopharmacologie en région tropicale et méditerranéenne. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui se cache derrière cet acronyme?
Donc Avertem, c'est une association donc effectivement qui a un nom qui ne correspond pas forcément à l'intégralité de nos activités aujourd'hui. Donc en fait, c'est une association qui avait été créée en 1999 à Lille par des professeurs de botanique et donc qui envoyaient des étudiants en ethnobotanique. Donc l'ethnobotanique, c'est la science qui s'intéresse aux relations entre les hommes et les plantes. Et donc qui envoyait des étudiants dans différents pays. Et donc après, nous, on a repris cette association. Donc, trois étudiantes en pharmacie de Lille ont repris cette association. On a gardé le nom. Et en fait, le projet qu'on porte aujourd'hui, donc, il est situé uniquement à Madagascar. Donc c'est un projet qui a été intitulé Madagascar, des hommes, des plantes, des remèdes. Et donc là, on retrouve l'idée d'ethnopharmacologie. Donc l'ethnopharmacologie, c'est tout ce qui intéresse les façons dont les populations ont de se soigner avec des bases de plantes, mais également on peut trouver éventuellement des bases animales ou des minéraux. Voilà, donc nous en fait le projet qu'on porte, donc c'est depuis 2008, dans le cadre de la coopération décentralisée entre la région Nord-Pas-de-Calais et la région Analangirouf, qui est une région qui est située sur la côte est de Madagascar. Et donc on a ce projet-là qui est très local en fait. On travaille avec trois villages qui sont situés autour d'une aire protégée, donc une forêt littorale. Et donc on travaille avec les populations, en partenariat avec les populations, pour essayer de trouver, on va dire que ce qui est un peu central, c'est les plantes médicinales. Donc les plantes médicinales vues du côté sanitaire, donc en fait on essaye de trouver des remèdes à moindre coût pour que les populations puissent soigner des pathologies de base, comme des pathologies diarrhéiques ou des problèmes respiratoires. Donc on travaille, donc on va rencontrer les populations, on essaye de savoir comment elles se soignent. Et après, donc nous on est une équipe qui est composée de on a différentes compétences. Et une partie de l'équipe est composée de gens qui sont issus du milieu de la pharmacie. Et donc l'idée c'est de mixer les deux savoirs. Donc on va prendre, c'est pas vraiment le bon terme, mais on va interroger les gens sur leur savoir, leur pratique. Nous, on va apporter nos compétences aussi. On va faire un mix et après, on va faire un retour aux populations. Donc, on va leur faire des formations sur une façon un petit peu optimisée pour pouvoir utiliser les plantes.
En gros, hein, c'est là où peut-être un humanitaire débarquerait avec ses caisses de médicaments. Là, avec la population, vous croisez vos savoirs sur les herbes locales pour aider les gens pour les soigner, c'est ça ?
Tout à fait, c'est ça. Donc nous, on n'est vraiment pas dans cette idée d'apporter des médicaments. C'est vrai, c'est tout ce qu'on rejette, on va dire. En fait, nous, on est donc ça illustre ce que disait Olivia tout à l'heure par rapport à des projets locaux qui sont axés sur des besoins locaux. Donc notre idée à nous, c'est de partir de ce qu'on appelle le patrimoine culturel, donc ce que les gens, comment ils se soignent, comment ils ont l'habitude d'utiliser les plantes. En plus, ça, à Madagascar, c'est encore très fort, et donc il y a une symbolique très forte autour de ça. Ça a une place culturelle très sociale, très importante. Donc on part. Donc nous, notre idée, c'est vraiment pas de bouleverser tout ça.
Une place sociale importante, une place aussi environnementale, hein, puisque la biodiversité à Madagascar, c'est quelque chose de très très important.
Ouais. Donc effectivement, Madagascar. Donc c'est un peu dans le cadre de la coopération qu'on a été amené à travailler à Madagascar. Mais effectivement, Madagascar, c'est considéré comme un hotspot de biodiversité, avec 9 plantes sur 10 à peu près, puisqu'il y a encore plein de plantes méconnues là-bas, qui se trouvent que à Madagascar. Donc une flore incroyable. Et donc effectivement un enjeu environnemental qui est très fort. Donc avec historiquement différentes... au niveau nous, où on travaille très localement, donc il y a eu d'abord une mise à mal de la flore avec une exploitation industrielle qui a été faite par les Européens. Et aujourd'hui, c'est des besoins locaux. Les populations ont besoin de bois. Les forêts se réduisent de plus en plus. Et donc, effectivement, un enjeu environnemental qui est très important et qui est assez difficile à... Enfin, on peut pas agir comme ça. Enfin, voilà. C'est multi-acteurs, il y a des enjeux très forts. Et puis, une crise politique à Madagascar également qui n'arrange pas les choses.
Dans le secteur de la solidarité internationale, tout n'est pas tout beau, tout rose non plus. Il y a parfois aussi des gens qui ont des arrière-pensées. Ça peut être des besoins en termes de communication ou ça peut être une implantation économique. Alors on va peut-être prendre un exemple avec celui d'Avertem, hein, Julie Lebigot. Quand on a un projet comme ça, quand on travaille sur les plantes médicinales à Madagascar, on peut imaginer qu'il y a peut-être des labos pharmacologiques qui peuvent essayer de rentrer en contact avec vous. Est-ce que ça a été le cas ?
Donc effectivement, nous, quand on travaille autour des plantes médicinales, c'est très compliqué de cerner tous les enjeux. Et donc nous, on est déjà très attentifs à tout ce qui s'apparente à de la biopiraterie. Et donc c'est pour ça qu'on est obligé de redoubler un peu de prudence sur nos données et sur la divulgation de nos données. Et on a d'ailleurs du mal à savoir de quelle manière on peut les protéger pour être sûr, évidemment, que ce soit qu'il y ait si retombées économiques qu'il y a, pour l'instant c'est pas le cas, mais qu'elles soient vraiment à destination des populations. Alors après, est-ce qu'on a eu des sollicitations ? Effectivement, on a eu déjà des propositions, enfin moi j'en ai eu une récemment, d'un gros laboratoire qui cherchait des plantes cosmétiques à Madagascar, puisqu'on a parlé tout à l'heure de la flore qui était très riche là-bas, et donc des choses encore méconnues. Quand on a des données, qu'on veut faire des analyses en laboratoire, c'est toujours un peu la question, est-ce qu'on les fait à Madagascar ou en France ? Et donc on a privilégié de les faire à Madagascar pour que notre travail ne soit pas utilisé dans un...
Dans d'autres buts, quoi, pour
dans
faire des...
Oui. Je sais pas,
donc là, c'était plutôt un groupe de cosmétiques, hein, si
oui,
j'ai bien
c'est
compris.
Oui, c'est ça, c'était pour développer des cosmétiques. Cosmétiques ou des fois, c'est tout ce qui est en lien avec la parapharmacie, par exemple. Ça peut être aussi des choses pour maigrir ou des choses comme ça. Enfin, tout ce qui intéresse un peu les laboratoires occidentaux, en fait.
Olivia Maïfer, sur la question de la récupération ou de l'implantation de pouvoirs économiques, comment vous voyez ça ? Est-ce qu'il y a comme ça des entreprises vraiment à but lucratif qui viennent aussi taper à votre porte ?
Alors oui, effectivement, en tant que réseau multi-acteurs, forcément, on s'ouvre également aux entreprises. On est sollicité de temps en temps. C'est évidemment un peu notre crainte d'avoir l'impression d'être utilisé. Et on est très, très, très méfiant sur ça. Mais l'idée, c'est quand même de pouvoir construire tous ensemble quelque chose de cohérent. Et donc, en fait, l'apport qu'on peut avoir auprès de ces structures, c'est justement dans les choix qu'ils vont faire sur le terrain, etc., leur montrer aussi les répercussions. Et puis, la création de partenariats avec des structures locales pour être sûr que les projets qui soient menés ou les entreprises qui soient créées aient des retombées économiques localement, parce que c'est quand même le but de tout projet de coopération internationale. L'année dernière, par exemple, on avait réalisé un colloque sur la coopération économique internationale, justement pour pouvoir promouvoir un petit peu toutes ces valeurs et dire qu'il est possible de coopérer ensemble, il est possible de créer des entreprises et de l'entrepreneuriat, mais qu'il soit dans l'équité et le respect de chacun. Et donc, on utilise les ressources du Sud, ok, mais dans ces cas-là, les retombées doivent aussi être pour le développement local au Sud et les populations là-bas. Donc, effectivement, on a cette crainte d'être un peu utilisé, mais le but, c'est aussi de pouvoir insuffler petit à petit des valeurs, des idées, etc., et co-construire les choses ensemble avec les entreprises qu'il ne faut pas exclure de cette société, de ce domaine, en fait.
Alors, Majdouline Sbaye, hein, qui nous a rejoint, je rappelle que vous êtes vice-président du Conseil régional, donc en charge de la citoyenneté, des relations internationales et de la coopération décentralisée. Et vous avez été aussi animatrice radio, j'ai vu ça sur Pastel FM, hein, donc
oui,
bienvenue
ça.
À nouveau sur une radio, radio associative. Alors, sur cette même question, un peu de finalement, est-ce que le Conseil régional ne fait, entre guillemets, fait pas de la solidarité internationale à d'autres fins, pour peut-être implanter ses entreprises ou bien pour communiquer auprès de ses habitants Est-ce qu'il n'y a pas ça aussi derrière ?
Ah bah oui, quand on fait de la solidarité internationale, on est content que les habitants de la région soient au courant des projets qu'on mène, parce que c'est une façon aussi de rendre conscients les habitants d'une région des réalités vécues dans le monde. Et les réalités, souvent, quand on parle de solidarité nord-sud, il s'agit d'inégalités très importantes et qui sont souvent aussi les conséquences de choix économiques ou de choix politiques que nous faisons au nord. Donc pouvoir sensibiliser les habitants de notre région à ces réalités, c'est très important pour nous. Après, ce n'est pas du marketing non plus. Il est évident que peut-être que des liens privilégiés qui se créeraient entre des régions, entre notre région et d'autres régions du monde, peuvent par ailleurs aussi conduire à des liens économiques qui amèneraient, je dirais, des formes de profit. Mais très sincèrement, souvent, c'est plus des formes de coopération universitaire, économique, à retombées effectivement lucratives, mais qui bénéficient en premier lieu à de la création d'activités, d'emplois et à de la redistribution de richesses pour les habitants de notre région et les habitants de la région partenaire. Donc c'est ça qui est important. Mais je voulais réagir par rapport à ce qui a été dit. Je pense qu'il y a une différence entre une entreprise ou une organisation qui décide de faire de la solidarité internationale pour redorer son image et en tirer un profit en termes de bénéfices, et de la biopiraterie, ou des gens qui, effectivement, ne redistribuent pas les richesses qu'elles produisent pour le bien du pays. Je pense notamment aux paradis fiscaux. 50% des richesses mondiales, enfin de la circulation dans la finance, finit dans les paradis fiscaux. Et donc tout cet argent qui est perdu au Sud, c'est autant d'argent qui n'est pas investi dans l'éducation, dans la santé et dans le développement des pays. Comme dans notre pays d'ailleurs aussi, hein, par ailleurs. Donc je pense que c'est deux choses. Et sur la biopiraterie, par exemple, c'est comment on brevette le vivant et comment on spolie des populations d'un patrimoine. Vous faites de l'ethnopharmacologie, c'est le patrimoine d'une toute une civilisation. Qui est spoliée, qui est utilisée, brevetée à des fins lucratives. C'est deux choses différentes. Je pense qu'il y a une chose qui doit être très condamnée, la biopiraterie, le fait effectivement d'avoir recours aux paradis fiscaux, et une chose qui peut être le fait que des gens décident de faire de la solidarité internationale pour redorer leur image, ça peut aussi finalement transformer leur comportement plus en profondeur. C'est-à-dire parce qu'ils découvrent ces réalités, ils décident de transformer leur approche du développement économique et leur approche de leur entreprise. C'est deux choses qui sont différentes.
Alors, je rappelle que le Conseil régional aide quatre régions en Afrique. Hein. Il y a la région de Saint-Louis au Sénégal, la région de Doukala Abda au Maroc, la région de Kaï au Mali et la région de Anangirouf
à Madagascar.
Alors une question.
Et la région de Matam au Sénégal.
D'accord. Une question d'actualité. Hein. Guerre civile au Mali, grande instabilité politique à Madagascar. Comment ça se passe concrètement dans ce genre de situation? Alors peut-être, je ne sais pas si Julie Le Bigot a quelque chose à dire sur la situation de Madagascar. Est-ce que ça a eu une influence dans la manière dont le projet a été mené ou pas tellement?
Alors, la crise politique à Madagascar, ça impacte surtout, enfin, ça impacte un peu tous les domaines, mais ça impacte énormément le domaine de l'enfin, si on parle de l'action à Vertem, par exemple, ça limite énormément ce qu'on peut faire au niveau de l'environnement, notamment parce que ce qui était, par exemple, dans notre cas, on travaille autour d'une aire protégée. L'aire protégée, depuis 2009, en gros, c'est aller exploiter illicitement de façon quotidienne. Et donc, en fait, ce qui se faisait auparavant un peu se fait aujourd'hui, c'est multiplié par 10, quoi. Donc, pour nous, travailler dans un contexte de crise politique comme ça, à Madagascar, c'est évidemment, ça complique les choses, surtout au niveau enfin, pour un exemple précis, en Velin, par exemple. On peut pas mener, enfin, c'est difficile de mener des actions de défense de l'environnement quand parallèlement au niveau de l'État, c'est instable et qu'on n'a pas de soutien, quoi.
Majdouline Sbaï, sur cette question de l'instabilité politique.
Sur l'instabilité politique, c'est vrai que pour avoir été visiter le site d'Avertem, j'ai eu ce plaisir hein, de visiter et de voir aussi le travail fantastique que fait l'association Avertem à Madagascar. Quand on est dans une situation, en tout cas pour le Conseil régional, notre situation c'est que quand il n'y a pas d'élection, quand il y a un coup d'État et qu'il y a un gouvernement provisoire, comme c'est le cas à Madagascar, ou quand il y a une situation de guerre comme au Mali, les gens sont en danger. Les associations ne peuvent plus y aller. On est en zone rouge. On est bien sûr très affectés parce que nos amis, parce que ce sont évidemment aussi des relations humaines, la coopération internationale, on sont en danger. Et on a peu de visibilité sur ce qu'on va pouvoir continuer à faire ensemble, en termes de tous les projets de coopération qui peuvent être menés dans la santé, dans l'éducation, etc. Donc par exemple, au Mali, nous avons réagi en se disant que ce qui était crucial, ce que nous, on pouvait faire, on n'a pas d'armée, on ne peut pas, intervenir, nous ne siégeons pas à l'ONU non plus, mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut au moins garantir la sécurité alimentaire et favoriser la construction d'une sécurité alimentaire durable en région de Kaï, et pas simplement des ONG qui vont venir nourrir les réfugiés pour un court terme et détruire finalement peut-être aussi les infrastructures qui existent agricoles qui ont été montées avec l'appui des coopérations décentralisées de longue date. À Madagascar, nous sommes par exemple, s'il n'y a pas d'élection l'année prochaine à Madagascar, d'élection législative, présidentielle ou régionale, nous allons être mis en difficulté pour poursuivre notre accord de coopération. Parce qu'aujourd'hui, nous avons signé un accord de coopération avec des autorités qui ne sont pas démocratiquement élues. Donc c'est compliqué pour nous. Et en même temps, nous savons qu'elles ont une vraie légitimité, puisque ce sont des gens qui défendent l'intérêt des populations. Nous les connaissons. Ils nous ont témoigné de l'importance. C'est un gouvernement transitoire qui est reconnu par les instances internationales. Nous ne sommes pas dans l'illégalité. Mais au bout d'un certain temps, pour une institution comme la nôtre, ça peut être difficile. Et c'est tous ces paramètres qu'il faut prendre en compte. Mais ce que je veux dire surtout, c'est que c'est terrible, c'est dramatique les conséquences que ça a. Parce que quand vous voyez le Mali qui a battu une démocratie qui était exemplaire pour l'Afrique de l'Ouest, quand on voit une région comme la région de Caille, malgré toutes ces difficultés, qui a créé finalement les conditions d'un développement local qui tient la route et qui permet de favoriser le bien-être des habitants, et que vous voyez tous ces efforts réduits à néant à cause du terrorisme, je peux vous dire que ça fait vraiment mal au cœur.
On touche là aux limites, hein, finalement, de cette coopération Nord-Sud. Nico, une ou deux dernières questions avant de clôturer le débat.
Alors, on va quand même parler de l'événement de novembre, qui est la semaine de la solidarité internationale. Avant ça, quand même, puisque donc on a une élue du conseil régional et puis plutôt des associatifs, hein, comment ça se passe les relations entre est-ce que vous êtes assez aidé, est-ce que c'est compliqué de remplir des demandes de subventions, une exigence forte aussi en termes d'évaluation. Vous pouvez vous plaindre maintenant, elle est là aussi pour ça, je pense.
Je vais démarrer, donc oui, Olivier Aliane Coopération. Nous, c'est un petit peu particulier, puisque comme nous sommes le réseau régional des acteurs de solidarité internationale, en fait, on travaille main dans la main avec le conseil régional, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'échanges, beaucoup de choses qui se construisent ensemble. Évidemment, nous sommes financés en grande partie par le conseil régional, donc c'est grâce à eux que nous menons tous nos projets. Mais surtout, ce sont des réflexions communes, voilà, portées ensemble, chacun avec ses spécificités, chacun avec ses connaissances, etc. Nous appuyons sur les acteurs de notre territoire ici en Nord-Pas-de-Calais, et donc que ce soit via le conseil régional ou via le réseau régional, en fait on s'appuie essentiellement sur tous les acteurs qui sont présents ici. Donc je pense qu'en termes de coopération, c'est un bon exemple, parce que coopération entre collectivités, institutions, associatifs et toute autre structure, on arrive à créer quelque chose un peu de cohérent. Quoi.
Julie Le Bigot, très très vite, peut-être sur cette question. Assez aidé votre association, pas assez
Nous, je pense qu'on peut, difficilement se plaindre du conseil régional. C'est eux qui aident vraiment l'association à faire ce qu'elle est aujourd'hui. Pas de charges administratives trop lourdes, pas de.
D'accord, ok. Alors, très vite, là, parce qu'on arrive vraiment à la fin de l'émission, et Fred, le technicien, me fait des grands signes pour dire qu'il faut absolument que je la ferme dans l'émission.
Pas du tout.
Donc, on va parler de l'événement de novembre, la semaine de la solidarité internationale. Mm-hmm. On ne va pas faire le catalogue de tout ce qui va se passer.
Un
temps fort, et puis aussi les événements auxquels la Vertem participe.
Juste déjà rappeler les dates, c'est quand même du 17 au 25 novembre, ça a lieu dans toute la France et donc en Nord-Pas-de-Calais. L'événement est partenaire du mois de l'économie sociale et solidaire, donc voilà, on essaie de mettre en avant les projets qui sont en commun. Juste rappeler que voilà, ça a pour objectif de promouvoir les valeurs de la solidarité internationale, et justement on parlait tout à l'heure de faire changer nos actions, nous ici au Nord, et ce sont ce type d'actions, ce type de projets qui permettent de sensibiliser les gens ici, donc c'est important. Il y aura énormément d'animations, de concerts, de films, de projections venus de partenaires du Sud aussi, qui vont pouvoir nous apporter leurs paroles du Sud avec leur façon aussi de voir cette coopération Sud-Nord. Donc du 17 au 25 novembre. Et juste le programme, parce qu'on ne va pas le détailler, c'est sur www.lasemaine.org.
Les événements d'Avertem.
Alors les événements d'Avertem, donc on a 4 événements dans la semaine. Donc le lundi 19, on organise une conférence sur l'agrobusiness à Madagascar. Donc là, c'est vraiment l'idée solidarité nord, solidarité sud. Donc l'agrobusiness à Madagascar, c'est principalement des agrocarburants, donc qui sont plutôt exportés vers les pays du nord. Donc l'idée, c'est vraiment de faire un état des lieux avec Marc Dufumier, donc un agronome.
Alors ça se passe où ?
Donc ça se passera à la MEP, donc un place Georges Lyon à Lille. Et donc c'est à partir de 19h30, avec avant une vente de confiture qui est organisée par une autre association qui s'appelle Bricozem, en soutien à une ONG malgache, Antongile Conservation. Et donc là l'idée de... On fait aussi intervenir un membre d'un collectif malgache pour la défense des terres malgaches, pour cette conférence. Et ensuite on fait 2 ateliers le mardi et le mercredi avec des clubs seniors de la ville de Lille sur la santé solidaire. Et puis le samedi, un événement avec. On travaille en partenariat avec une école de Waterloo. Donc on va faire. C'est donc plutôt table associative pour faire découvrir nos activités aux gens qui viendront. Voilà.